Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les attentoirs.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. C'est posant des questions.
Avec nous, ça dirait, il a fait très chaud.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'émission 280 des Entonnoirs. Alors aujourd'hui c'est François qui présente, donc bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui par une spirale, ensuite nous allons passer à la chronique santé de Margot, puis Margot nous proposera une musique. C'est quoi ta musique, Margot ?
C'est donc un groupe anglais.
Les Romantics.
Les Romantics, voilà.
Ok. Ensuite, la pensée de la semaine de Nathalie, la fourmi des spectacles de Nathalie, une musique proposée par Fred. Donc, je crois qu'il s'agit de Maki Maki, c'est une musique tzigane. La parenthèse du jour de Roger Lucien. Hakim nous parlera de son expérience du coma. Un petit poème de Bruno pour nous alléger un peu tout ça. L'avenir du futur de Brahim et Gilbert. Enfin, on a des invités aujourd'hui puisque nous sont en visite chez nous plusieurs infirmiers, élèves infirmiers. Donc on va les questionner un petit peu sur ce qu'ils ressentent de leurs études, de leur futur métier, etc. Pierre va nous faire un petit billet d'humeur et enfin on terminera par la météo par Gilbert. Donc maintenant, tout de suite, la spirale.
La spirale, la spirale, la spirale. Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes.
Alors aujourd'hui, je vous propose un extrait d'un album de Yes. L'album, c'est Yes Songs. C'est un album de 1973. Alors ce sera vraiment un extrait, hein, 2 minutes 52, parce que la plupart des chansons font entre 8 et 15 minutes sur cet album. Donc on ne peut pas diffuser ça à la radio. À vous. Thank you. Voilà, c'était donc le groupe Yes, un album de 1973, un extrait de Yes Songs.
Je me rappelle de cet album quand j'étais très jeune, alors que maintenant je suis très vieux. Voilà.
Margot, chronique santé.
Voilà, jingle.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Donc, bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Donc aujourd'hui, nous allons parler des médicaments. Ils soulagent les douleurs, aident notre organisme à lutter contre des infections ou autres. Les gens se présentent pour être cobayes. Pour tester, ils sont rémunérés 4500 euros par an, je précise bien. Il faut 10 à 15 ans pour élaborer un médicament. La découverte d'une formule à sa distribution en pharmacie. Pour que tous ces effets leur soient reconnus, les laboratoires pharmaceutiques déposent un brevet qui leur assure une priorité et l'exclusivité du médicament pendant 20 ans. Alors, je vais poser une question. Que pensez-vous des médicaments et quels sont leurs effets? Voilà. Je vous écoute.
C'est difficile hein, comme question. Que pensez-vous des médicaments? Ben, on peut en penser du bien et parfois du mal aussi. Ça dépend si on s'étale sur les aspects bénéfiques ou sur les effets secondaires.
Hein. Oui, moi j'aurais une réflexion de faiseur de jeux de mots et puis de poète dans le sens où des fois, quelquefois la pilule est grosse à avaler. Mais deuxièmement, des fois malheureusement, quand on est dans la dèche, des fois des gros cachets ça fait du bien. Voilà, c'est.
Merci Bruno.
Non, les médicaments quand on est malade on ne peut pas s'en passer. Mais moi j'aimerais signaler les effets secondaires de certains médicaments. Je vais parler de mon cas, moi qui suis malade. Autour de la table il y a d'autres personnes qui sont malades. Moi, bon, je parle un petit peu de mon expérience personnelle. J'ai eu pas mal de problèmes avec mes médicaments antipsychotiques. Parce que, pour être précis, j'avais des problèmes en dessous de la ceinture pendant longtemps. Donc, ça m'a beaucoup embêté. Et il a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon médicament pour que les choses aillent mieux. Voilà.
Les étudiants, c'est pas que... Allez.
Vous bousculez pas tous. Hein.
Mais moi, j'aurais encore une réflexion humoristique à faire par rapport à ce que dit Roger Lucien. Il y avait un mec qui avait le même problème que toi par rapport à tout la. Lui, il a tout compris. Il a pris le un peu habillé de travers pour résoudre le problème. Il s'est acheté une nouvelle ceinture. Voilà.
Bon, ben.
Attends.
Oui. Je me présente avant, peut-être. Je suis Karim, donc je suis étudiant infirmier. Donc pour revenir sur les médicaments, nous, notre rôle en tant que futurs soignants, on est là en tant que les administrés et déjà aussi de connaître leurs effets et le but recherché. Et une chose est sûre, c'est que bon, voilà, c'est prescrit par un médecin et qu'il faut, comme tout le monde sait, ne pas en abuser et que, d'éviter tout ce qui est automédication. Et que c'est quand même une nécessité dans certains cas pour si on a un traitement à suivre.
T'as, hein.
Moi j'ai une question aux infirmiers. Pourquoi les psychiatres ou les infirmiers ne préviennent pas qu'il y a des effets secondaires au niveau des médicaments? Comme moi, j'étais pas prévenu. Pourquoi?
Je me présente, donc Ludovic, je suis élève infirmier aussi. Donc au niveau des effets indésirables des médicaments, c'est pas sûr, c'est pas tout le temps en fait. Ça dépend des organismes. Sur certains organismes, il peut y avoir des effets indésirables, pas sur d'autres. Donc il est difficile de pouvoir faire prévenir le patient, de faire l'inventaire de tous les effets indésirables possibles, parce que la liste peut être longue. Donc c'est en fonction des différents organismes où il peut y avoir des effets indésirables.
Mais pourquoi les psychiatres et les infirmiers ne nous mettent pas au courant avant l'utilisation d'un médicament, ouais, qu'il y a des effets indésirables?
Comme tu as parlé psychiatre, c'est quand même une maladie qui est difficile. Il faut longtemps avant de la comprendre, vous-même, avant de comprendre qu'il faut faut prendre un traitement, sinon ça risque de revenir au bout d'un certain temps. C'est quand même assez compliqué. Et puis, comme il l'a dit, on peut pas faire une liste des... Par exemple, si je te prends l'aspirine, si je te dis, voilà, t'as mal à la tête, ben, faut prendre une aspirine, mais faut que tu fasses attention. Tu peux faire un accident vasculaire cérébral avec l'aspirine, tu peux faire une hémorragie interne. Tu vas me dire, bon, ben, je vais pas le prendre, ton médicament. Cependant, quand on a une pathologie comme une psychose ou la schizophrénie, les professionnels de santé savent que dans le fond, il y aura quand même un traitement médicamenteux assez long. Mais quand on vient d'être malade, si on commence tout de suite à vous dire, ça va être pendant quelques années de traitement, bah la personne va partir en courant et puis va être en rupture de soins immédiatement, quoi. Et puis pour revenir après, ben ça va être difficile si on lui fait peur de suite. D'autant plus que tout le monde ne fait pas les effets secondaires. Moi, j'ai pris de l'aspirine à plusieurs reprises, j'ai pas fait d'accident vasculaire cérébral. Et c'est la même chose pour les autres médicaments. Ça se peut que vous le fassiez, ça se peut que vous le fassiez pas. Donc pourquoi on peut pas vous dire à chaque fois, attention, peut-être qu'il va avoir ça, peut-être qu'il va avoir ça.
Roger Lucien.
Je pense qu'un dialogue régulier et une compréhension réciproque entre le médecin et le patient est très important pour qu'il y ait réussite dans la guérison, si guérison il y a, ou alors pour qu'il y ait, je ne sais pas si ça se dit, stabilisation ou bien pour qu'il y ait stabilisation dans la maladie. La compréhension est très importante entre le patient et le médecin.
Merci Roger Lucien. Nous allons passer à la musique proposée par Margot. Alors qu'est-ce que tu nous proposes ?
Jingle.
Allez, viens, viens, mais viens. Bienvenue dans le coffre à vinyle.
Oui, donc nous allons écouter un titre de 1983. Donc c'est un groupe anglais. Donc c'est les Dex Romantic et c'est Talking in You Sleep.
When you close your eyes and les entonnoirs.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
Margot, un petit commentaire sur ta musique ?
Non, non, j'espère que vous avez apprécié.
Oui.
Voilà. Ah oui, c'était bien.
Voilà.
Et maintenant, on va passer à la pensée de la semaine de Nathalie.
Jingle.
La pensée de la semaine. Chut. Chez les entonnoirs. Avec Nathalie.
Chers auditrices et chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver. Donc cette semaine, je vous propose de parler sur la solitude et je vais vous lire donc un petit texte sur la solitude. La solitude n'est pas ton ennemi. Elle est le creuset de bien des secrets de sagesse et source de bien-être. Elle t'offre toutes les possibilités de réflexion, d'attention, d'écoute et de sérénité. Elle te permet même de lui échapper pour le temps que tu voudras accorder à la rencontre d'autres papillons, issus comme toi d'autres solitudes. Ne la chasse pas, elle est ta meilleure conseillère, celle qui te connaît le mieux que personne depuis le premier jour. Celle qui se taira quand tu choisiras de la quitter pour t'envoler un peu loin. Un jour plus loin, pardon. Donc pour moi la solitude c'est pas une mauvaise chose, même si parfois elle est pesante, elle me permet de me ressourcer sur moi-même et de prendre et de faire les bons choix pour moi. Donc maintenant un petit tour de table, nos chers invités, élèves infirmières, j'attends vos réactions et vous autres, je vous écoute.
Je pense qu'il faut différencier la solitude de l'isolement. La solitude, comme vous l'avez dit, ça peut porter conseil, ça peut permettre de réfléchir, de se concentrer sur soi.
Mm-hmm. Charlotte ?
Ben, moi, je pense un peu pareil. Quelquefois, on ressent le besoin d'être un peu seul pour se poser certaines questions. Et la solitude, ça peut être un bien.
Margot ?
Par contre, moi, la solitude, je déteste.
Il n'y a pas que toi.
Voilà.
Ouais, moi, je crains la solitude qui mène à l'isolement et j'ai peur de l'isolement.
J'ai une réflexion par rapport à la solitude. Il y a deux sortes de solitude. La solitude qu'on nous impose et la solitude qu'on recherche, qui ne sont pas du tout les mêmes.
Mm-hmm.
Et puis moi, je travaille souvent sur le concept solidaire en étant solitaire.
D'accord, ok.
Voilà. Roger Lucien, tu avais...
Je vais rejoindre Bruno. Je pense qu'il y a deux sortes de solitude aussi. Une solitude désirée et une qui ne l'est pas.
Imposée.
Ouais. Je vais commencer par la solitude désirée. Je vais par exemple parler de l'écrivain qui a besoin de tranquillité, de calme pour pouvoir réfléchir, penser avant de se pencher sur sa feuille afin d'écrire son roman, de relater des faits. Lui, c'est de la solitude désirée qu'il veut, dont il a besoin. Et il y a la solitude non désirée, plus ou moins imposée par la vie. Peut-être après un divorce, une séparation, après un décès, et puis
ouais,
c'est une solitude plus difficile. Contre laquelle il faut se battre à tout instant.
D'accord, merci Roger Lucien.
Merci Roger Lucien. Maintenant, la fourmi des spectacles.
Jingle. Concert. Théâtre. Ouf, détente.
Expo.
Musique.
Spectacle.
Théâtre. Humour.
Humour.
Comédie.
Animation.
Loisir. Divertissement.
Divertissement.
Spectacle.
Humour.
Comédie. Loisir.
Concert.
La fourmi des spectacles.
Donc, je suis de retour. Donc, cette semaine, dans la fourmi des spectacles, je vais vous parler de Stone and Moon.
Alors, c'est un duo acoustique qui est venu du Canada, qui a après plus de 300 représentations à travers tout le Québec, l'Ontario et l'État de New York, débarque aujourd'hui en France. Donc, il est constitué de deux voix et de deux guitares. De leurs compositions sont teintées de jazz, de blues, de folk, de reggae et un peu de rap. Donc, c'est vraiment exceptionnel ce concert en France. C'est donc le 16 novembre 2012 à 20h au Biplan. Vous connaissez maintenant, je vous en parle assez souvent. Donc, il se situe au 19 rue Colbert à Lille. Le prix de place est fixé entre 6 et 9 euros. Mais je vous conseille quand même de réserver au 03 20 12 91 11 ou sur le site http://www.biplan.org. Voilà, et bon concert pour celui-ci. Maintenant, là, je vais vous parler d'une exposition qui est un petit peu, on va pas dire bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Nathalie Pirotte, So Chic of Fantastic. Alors, l'artiste belge Nathalie Pirotte, pour la première fois à Lille, expose ses corps de femmes aux têtes d'animaux. Ce qui est pittoresque quand même. Ses œuvres fantastiques ont pour vocation de célébrer la femme dans ce qu'elle a de plus léger et de plus grave aussi. L'objectif, bien sûr, de l'artiste, c'est de nous faire sourire et beaucoup plus y affinité, bien sûr. Elle expose donc du 15 novembre au 8 décembre 2012 au Melting Heart Gallery, situé au 34 rue de la Halle à Lille. Et en plus, l'entrée est gratuite et je pense que ça vaut le détour. Alors, allez-y, bonne expo et à la semaine prochaine.
Merci Nathalie. Maintenant, Fred nous propose une musique. Maki Maki, musique tzigane.
Ici kamni, pare chucha sas. Amen tikne, kanchi chicha nas. Sas ma efta, efta besh. Palaikana, efta, efta bardesh. Hop, hop, le, 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 le. Kichi, 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 ale, ale, chi, chi. Dili, di, 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 la, di, da, di, da. Ei, kichi, 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 ale, ale, chi, chi. Dili, di, 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 la, di, da, di, da. Te, o, chi, cha, te, tolpe. Dili, di, 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 la, di, da, di, da. Ei, changen, dar, mai, upre. Dili, di, 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 la, di, da, di, da. Maki, Mariana, Mariuszka, Mariaruszka, Maruszka. Maki, 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 maki. Mariana, Mariuszka, Mariaruszka, Maruszka. Maruszka. Hey, the vibe. I got it.
les entonnoirs.
Ici les fous.
Pardon ?
Ici les fous.
La parenthèse du jour avec Roger Lucien.
Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Je vais vous lire deux extraits de citations ayant trait à la culture que j'ai relevés il y a plusieurs années d'un hebdomadaire dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Donc, je vais vous lire en premier la pensée d'un biologiste qu'on appelle Jean Rostand. Donc, il dit ceci. On façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Pour moi, cela signifie qu'une pour avoir une belle plante, il faut bien l'entretenir. Pour qu'elle pousse bien, il faut bien l'entretenir, bien l'arroser. Peut-être y mettre des engrais, je ne sais pas. En tout cas, des produits, des fertilisants. Et un homme, pour avoir un homme d'une bonne éducation, bien élevé, je pense que la meilleure des solutions, c'est l'éducation dès le bas âge, surtout pendant l'adolescence. Et l'éducation même se fait par soi-même aussi, jusqu'à la fin de sa vie. Donc j'attends vos réactions par rapport à ça.
Oui, on peut dire qu'effectivement, on se cultive, entre guillemets, comme une bonne plante par l'éducation. Et que l'éducation, bah, c'est tout au long de la vie. On s'éduque tout au long de sa vie.
Je trouve que la comparaison avec une plante est intéressante puisque c'est petit à petit qu'on avance dans la vie et qu'on évolue.
Moi, je vous parlais de l'éducation. Mais l'éducation, il y a des gens qui prouvent que certaines personnes, même s'ils ont une certaine éducation, ça ne prouve pas d'eux que ça peut être des bonnes personnes ou des gens honnêtes. Donc, est-ce que vous peut-être plus préciser l'éducation ou alors être instruit, être cultivé, avoir des connaissances, avoir des savoirs, que plutôt l'éducation?
Non, l'éducation dans au sens large de l'expression du terme.
D'accord. Donc, quand vous dites éducation, c'est pas seulement le fait d'aller à l'école, d'apprendre des connaissances.
L'éducation qu'on reçoit de ses parents aussi,
ouais.
De ses fréquentations.
Donc j'aurais une subtilité langue française suffisamment bien pour l'éducation. L'enfant croit en sa chance si on le considère comme une plante.
Ouais.
Ouais, très belle phrase.
Merci Bruno. Donc je vais rapidement passer à la deuxième citation. Elle est de Napoléon Bonaparte. Donc c'est les pensées choisies. Donc je vous la lis. L'éducation de l'enfant commence 20 ans avant sa naissance par l'éducation de la mère. Pour moi, ça veut tout dire. Pour moi, ça veut tout dire. Si à 20 ans, on a une mère qui a le double de son âge, qui n'a pas reçu d'éducation tout au long de sa vie, il est fort à parier que soi-même, si on n'a reçu aucune éducation de sa mère, ben quelque part, il y aura défaillance de ce côté-là, je pense. Donc, pour moi, c'est ce que ça veut dire.
Oui,
j'attends vos réactions par rapport à ça.
Moi, j'ai horreur de ce personnage Napoléon qui était raciste, esclavagiste. Il a rétabli l'esclavage alors que c'était aboli. Napoléon, je ne dis pas de conneries. Donc, je peux, voilà. Et aussi parce qu'il était machiste, le code civil, la femme en prend plein la gueule, excusez-moi. Voilà, quoi. Donc, et puis l'éducation bien patriarcale, la femme bien éduquée qui élève bien son gamin dans l'ordre napoléonien. Voilà, l'Empire, voilà.
Merci pour ta réaction, Bruno.
Je pense qu'aussi, pour rejoindre Bruno, il s'en prend à la mère, mais il y a le père aussi dans l'histoire.
Bah oui, et le père, il est où là?
Ah oui.
Ah bah non, il est à la guerre, hein, tranquille lui.
Un à la fois.
Mais dans la citation, on est censé déjà avoir éduqué la mère, donc maintenant, c'est même que, pire que ce que tu...
Peut-être que la mère n'a pas été éduquée par son père aussi.
Ouais, peut-être aussi.
Par
on
sa
peut
mère.
Aller loin comme ça.
C'est pas une fatalité non plus. Hein. C'est pas parce que la mère, elle n'a pas été éduquée que l'enfant, il n'arrivera pas à s'éduquer, entre guillemets, une partie tout seul. Hein.
Oui, mais ça aide quand même.
Exactement. D'ailleurs, l'éducation, si c'est tous devenir des tomates bien rouges et bien rondes et qui ont tous le même goût, ça dépend. Il y a aussi éducation et éducation. si l'éducation, c'est ce qu'on apprend à l'école, ben pas seulement.
En tout cas, la mère y est pour beaucoup dans l'éducation des enfants, je pense.
Ouais.
Bravo.
Merci.
Bon, ben merci. Alors maintenant, sans transition, il y a Hakim qui, depuis deux semaines, voulait nous parler de son expérience du coma. Alors Hakim, est-ce que tu peux nous parler de ça?
Oui, bien sûr, avec plaisir, cher auditeur, chère auditrice, bonjour. Voilà, moi en fait, j'en parle parce que je l'ai vécu. En 2001, j'ai fait un accident de moto et j'étais dans le coma. Mais le coma, c'est impressionnant parce que ma mère, elle venait me voir, elle me disait « Serre-moi la main, j'y serrai ». Mais je me rappelle pas avoir entendu quelqu'un me parler. Mais par contre, j'ai fait des rêves invraisemblables, quoi. C'est dingue. Il y a un rêve où on était dans un hôpital, chaque patient, comme la Formule 1 à la télé, on avait une Formule 1, on faisait une course. Et un autre rêve, j'étais à Cuba, j'ai apporté de la drogue en France. Et un autre rêve, j'étais au paradis.
Et c'est comment le paradis, Hakim? C'est comment le paradis, Hakim?
Bah, j'avoue que moi, quand j'étais au paradis, tout y était blanc.
Avec des personnages et des petites ailes dans le dos? Avec des personnages avec des petites ailes dans le dos?
Bah, franchement, au paradis, j'ai vu les arbres, les oiseaux, mais pas des personnages.
Okay. D'accord.
Et puis, c'était interdit aux enfants parce qu'il y a le petit carré blanc, parce que c'était paradis blanc. Enfin, non.
Ouais, ben, merci beaucoup, Hakim, pour ce témoignage.
Donc, je souhaite à tous ceux qui sont dans le coma que Dieu fasse qu'ils s'en sortent. Je leur souhaite à tous, bien sûr, pas tous, il y en a, c'est sûr qu'ils vont mourir, mais je souhaite le moins possible, quoi. Je souhaite à tous ceux qui sont dans le coma qu'ils se réveilleront le plus vite et que la famille sera soulagée. Merci.
Merci, Hakim.
Je vous en prie.
La parole déliée.
Quelques mots sur papier blanc.
Quelques mots, le poème d'aujourd'hui s'appelle Concurrence. La concurrence entre requins de la finance, c'est normal. C'est leur loi, donc ils se bouffent entre eux, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que ça a des répercussions sur nous, et notamment le concept de concurrence entre poètes. Et là, la concurrence entre poètes, j'aime pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai fait un poème qui s'appelle Concurrence. Soudain, sur un plateau télé, lors d'une émission littéraire, une querelle de poètes très célèbres dégénère. Et progressivement, l'un en qu'un fera tout en secret fou et jaloux pour détruire l'autre, s'obsédant même, au nom d'une concurrence qui ne dit pas son nom, à vouloir lui piquer d'une façon horrible ses conquêtes féminines. Et se voyant leur a dit de fait par les milieux de l'art, car concrètement il ne produit plus rien de beau et de généreux pour l'esprit humain, sans rien dire, il s'élèvera par la haine, tout en travaillant ses relations, pour prendre finalement le pouvoir partout et être comme un génie officiel, dans un espace de mots solennel, lui-même officiel, dont la cause est laissée aller dans un monde des idées, au pilotage candide et imprévu. Et à ce niveau, dans sa ligne de vérité, admettons que nous sommes dans un futur riche en technologie. Comme il doit s'arranger de tous et tout le temps, avec du baratin et du cynisme, il s'autorise en gourou, en chef, d'une secte de ratés, disséminés dans la vie et ses ratés, à être à partir d'un nid d'aigle, l'être suprême qui décide de tout. Et l'univers redevient un empire, avec son lot de tortures et de mauvais délires.
Merci Bruno.
Merci Bruno.
Bon, jingle. Envoyez la vue du futur. L'avenir du futur. Du futur. Du futur et du futur. Passé, passé, futur, futur. L'avenir du futur. Bon, cher éditeur, cher éditrice, tu peux parler des ovnis parce que ça, en Amérique, ils ont vu des intéressants identifiés comme E.T., ça veut dire maison, il cherche sa petite maison, mais après il est parti dans son vaisseau, il a trouvé sa route. Et après aussi, même il y a des intéressants à trois têtes, comme un non-vivant Qu'est-ce que t'en penses, Gilbert, toi, des extraterrestres?
Eh ben, moi, je crois vraiment que ça existe parce que pendant la guerre du Golfe, les Irakiens ont abattu un ovni. Ils ont capturé un humanoïde. Les Américains, ils ont capturé plusieurs humanoïdes. Et les Américains, ils ont eu trois soucoupes volantes assez grandes, endommagées. Bien sûr, les savons, ils ont été voir, mais on ne sait pas les faire marcher parce qu'ils ont une électricité inconnue de la nôtre. Nous, c'est un rotor qui fait l'électricité autour d'un aimant. Leur électricité, elle est inconnue de nous autres. Donc, on ne sait pas utiliser de soucoupe volante.
Parce que ça existe, parce que qu'est-ce que tu penses pour nous, des intérêts, sans identifier, comme c'est pas mal, peut-être.
Je suis un fétichiste quand je pense à l'espace. Excusez-moi, c'est une confidence que je fais. Et à chaque fois que j'écris sur les extraterrestres, il faut que je boive du café, tout simplement à cause du mot soucoupe, premièrement.
C'est ça, tout bon, à fait.
Et puis en ce moment, je suis, comment dire, je traverse des espaces et je capte et je reçois des choses. Et en ce moment, je suis branché sur l'œuf du dragon. Il faut récupérer l'œuf du dragon à tout prix, à donner à nos amis chinois. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Parce que c'est compliqué, je peux pas vous raconter, quoi. Il y a une espèce de méchant monsieur qui a des pognons qui l'a pris à Paris. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué et ça va revenir aux extraits. Enfin, c'est compliqué, quoi.
Et toi, François, qu'est-ce que tu veux comme extraterrestre, oui ou non?
Ah, moi, j'ai jamais vu d'extraterrestre personnellement, et puis j'y crois pas vraiment. Enfin, pas à toutes les histoires qu'on nous raconte, mais je me dis que l'univers est tellement grand que forcément, il y a sûrement quelque part une autre sorte de vie.
Comme la planète Mars ou soit la planète Neptune, un truc comme ça.
Et pourquoi pas comme des plantes, comme on en a parlé tout à l'heure,
ou simplement des espèces de microbes.
Mais de toute façon, la vie, selon les scientifiques, la vie a une origine extraterrestre par les vents spatiaux qui auraient apporté de. Oui, enfin, c'est une théorie, quoi. Voilà quoi.
Nathalie, est-ce que tu as une question?
Non, j'étais en train de réfléchir et moi, je partage un petit peu l'avis de François. Je pense que l'univers est très grand et que à travers tout l'univers, moi, je crois sincèrement qu'il doit y avoir des extraterrestres quelque part. Voilà.
Comme dans Superman, ça aussi en même temps.
Merci Brahim, merci Gilbert. Non, rien. Alors nous allons passer maintenant à autre chose. Nous allons cuisiner nos élèves infirmiers. Alors, bienvenue au micro.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Chacun un petit mot de présentation pour vous présenter?
Je vais commencer. Je suis Karim, donc étudiant infirmier en troisième année à l'IFSI de Roubaix. Et actuellement en stage en psychiatrie, notamment j'ai fait un parcours de stage à l'Escale, en CMP et à Bonafé, en secteur G14.
D'accord, merci.
Donc moi je m'appelle Sita, donc je suis aussi étudiante infirmière en troisième année à l'IFSI de Roubaix, donc dans la même promotion que Karim. Donc ça fait 10 semaines que je suis en stage en psychiatrie, donc j'ai été au CMP du G15, dans les unités psychiatriques générales du G15 et au CAPI.
Donc moi c'est Ludovic, donc je suis en troisième année aussi à l'IFSI de Roubaix, je suis dans la même promotion que Karim et Sita, et dans mon parcours durant mon stage, donc j'ai fait 5 semaines en UPG et 5 semaines au CMP du G12.
UPG ça veut dire quoi?
Unité psychiatrique générale.
D'accord, merci.
Voilà, donc bonjour à tous, moi c'est Tristan. Donc moi je suis en deuxième année donc à l'IFSI de Roubaix également. Je fais mes premiers pas en psychiatrie, j'ai commencé mon stage la semaine dernière donc en CMP. Donc ceci pendant 5 semaines et je me retrouve en UPG comme en début décembre là. Voilà.
Donc moi c'est Charlotte, je suis étudiante en troisième année à l'école d'infirmières de Roubaix aussi, donc même promo que Ludovic, Sita et Karim. C'est mon premier stage en psychiatrie. Mon lieu de stage principal, c'est le CMP du secteur 59 G14. Je suis allée aussi une semaine en UPG et une semaine à l'hôpital de jour, à l'Escale.
D'accord, merci. Alors, qui veut poser la première question?
Allez, je me lance. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait le choix du métier de, d'infirmier et d'infirmière.
Alors, comme beaucoup peuvent le penser, en fait, tout d'abord, le métier infirmier, pour beaucoup, c'est une vocation. Personnellement, enfin, c'était réfléchi et c'était pas un hasard. Et donc, en fait, moi, ce que je recherchais dans ce métier, c'était surtout l'aide qu'on pouvait apporter aux gens dans tous les services. Et voilà.
Bah, je pense que si on fait infirmier, c'est qu'on veut notamment servir aux autres, mais pas seulement au niveau relationnel. Il y a aussi un peu de technique, c'est ça aussi l'avantage de ce métier. Oui, Bruno.
Est-ce que je peux comparer les infirmiers à des hérissons? Et c'est pas du tout péjoratif.
Pourquoi?
Parce qu'ils font des piqûres et je trouve qu'ils sont piquants dans le bon sens du terme parce qu'ils rendent service. Voilà.
Merci Bruno. Tard. Hein.
Bah, vous voulez répondre peut-être, Tristan, continue sur la première question, non? Ou Charlotte? Votre métier d'infirmier, pourquoi?
Oui, bah, c'était avant tout. Moi, à la base, je me suis dirigé vers les langues. Je suis sorti du lycée sans réel vraiment projet d'avenir concret. Après, j'ai toujours. C'était le côté humain qui m'intéressait dans ce métier d'infirmier. Donc, qu'on retrouve pas forcément dans d'autres métiers. Et voilà quoi.
Alors moi j'avais une question à vous poser. Qu'attendez-vous en fait de l'atelier thérapeutique des entonnoirs et pourquoi avoir choisi les entonnoirs comme atelier thérapeutique enfin.
Bah, on nous avait expliqué que les entonnoirs c'était un peu différent, que les soignants et les patients étaient plus sur un même pied d'égalité. Et ce qui était intéressant, c'est de voir quelle était la prise de parole de personnes. Enfin, comment est-ce que vous viviez la maladie? Et on ne donne pas souvent la parole à des personnes qui ont des maladies qui relèvent de la santé mentale. Et donc c'est cette approche-là qui est différente par rapport aux autres ateliers thérapeutiques auxquels on a pu assister en fait. Donc vous choisissez vos sujets, vous choisissez vos chroniques. C'est pas imposé en fait. Et le fait que ce soit une radio, c'est un peu spécial.
Enfin ouais, bah moi ça rejoint un peu ce que tu as dit. Là, on voit qu'en fait le patient, il subit pas entre guillemets l'activité, mais il est plutôt acteur et tout se fait de vous et que c'est vraiment une autonomie, de votre part.
Voilà, bah je crois que ça rejoint aussi mon idée. C'est pas un acte imposé, on va dire. C'est vraiment les personnes malades qui sont acteurs de cet atelier. Je trouve ça intéressant, quoi.
Roger Lucien.
En France, la sélection pour entrer à l'école d'infirmiers est difficile. J'aimerais savoir parmi vous ceux qui n'avaient pas, si au cas où vous n'auriez pas réussi le concours d'entrée, vers quoi, vers quel métier seriez-vous orienté?
Ben, moi, j'aurais repassé le concours l'année d'après.
Je pense que j'aurais fait pareil.
Ben, non, moi, j'ai pas forcément d'idée précise.
Moi, avant de me lancer dans le concours d'entrée, j'avais fait une préparation. Donc, j'avais été dans un centre qui préparait le concours d'entrée. J'avais acheté des bouquins et je m'étais vraiment bien préparé quelques mois à l'avance pour donner toutes mes chances de mon côté de le réussir.
Bah, moi, comme Karim, je suis passé par une prépa. Après être sorti de fac de langue, donc qui m'a permis d'avoir une idée plus précise et plus concrète de ce métier, et j'ai notamment pu faire des stages pendant cette prépa, donc ça a concrétisé mon choix professionnel.
Alors moi j'ai une question. Durant votre parcours, est-ce que le stage en psychiatrie vous a fait peur quelque part?
Quand on arrive en psychiatrie, on arrive forcément avec des idées reçues, des préjugés. Donc quand on arrive, on a peur de nos préjugés et pas forcément de ce qu'on rencontre.
Ah, c'est joli ça. Ah, ça fait plaisir.
Et en fait, en apprenant à connaître les patients, on se rend compte que ben, c'est une maladie, que le patient ne se sent pas forcément bien. Oui, Pierre-Henri, vous...
Non, Roger Lucien. Là, vous m'avez trouvé un nouveau nom, un nouveau prénom.
Vous vouliez intervenir ?
Oui. Moi, j'aimerais savoir, depuis le début de votre formation d'infirmier, est-ce que vous avez eu parfois le sentiment d'avoir fait mal votre travail, d'avoir, par exemple, moralement affecté un patient, involontairement ou pas ?
Bah, moi, j'ai pas de situation en tête, mais c'est vrai qu'on fait forcément des erreurs au début. Bon, après, le tout, c'est que ces erreurs soient pas irréparables.
Moi, j'ai eu une anecdote, en fait, c'était en stage en gériatrie, et c'était sans faire exprès, j'étais avec un groupe de personnes âgées, et on s'était amusé à chacun chanter des chansons, et j'ai commencé à chanter une chanson que cette dame connaissait, et elle s'est mise à pleurer, en fait. Donc là, moi, j'ai été étonné, je pensais lui faire plaisir, et en fait, quand j'étais lui demander, elle me disait que c'était son mari qui lui chantait régulièrement cette chanson et qui était décédé il y a pas très longtemps, donc sans le savoir, bah, malheureusement, je lui avais fait rappeler un souvenir.
Douloureux.
Oui, moi, je tiens à rendre hommage aux professions de la santé, quel que soit infirmier, médecin ou autre, enfin, quel que soit le métier. Parce que manier, comment dire, l'homme, disons que c'est pas par dans ce métier, il s'agit de faire gaffe parce que faire de la perte en banque, c'est pas grave, c'est de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, ouais. Alors que manier de l'homme, bah, à des moments, ça peut avoir des conséquences graves, en médecine notamment, ou en soins infirmiers. Donc, vous n'avez pas choisi un métier facile par ces côtés-là, et vous avez beaucoup de... Il faut être courageux quand même, voilà.
Merci.
C'est Rachid. Moi, je pense que l'erreur est humaine, hein, et les erreurs existent dans le milieu infirmier comme partout, hein. Il y a des gens, un jour, vous allez peut-être vous tromper sur un traitement que vous allez donner. Quand on distribue des médicaments à 86 personnes âgées, et qu'après on doit faire les pansements, les insulines, les prises de sang et tout ça, ça arrive. Bon, après, il y a quelque chose qu'il faut se mettre en tête quand on veut devenir infirmier, c'est que quand on se trompe, ben, il ne faut pas cacher l'erreur et puis il faut faire ce qu'il faut pour la réparer. Et puis c'est tout. Mais ça arrive des fois de se tromper, même s'il faut tout mettre en place pour ne pas se tromper.
Moi, j'ai une question à vous poser, à vous tous, élèves infirmiers. Moi, j'aimerais savoir, lorsqu'on est pour la première fois confronté à la mort pendant sa formation, cela doit être difficile, ça peut être un choc pour certains, mais j'aimerais savoir si après il y a un accompagnement, c'est-à-dire vous êtes suivi après par un psychologue ou un psychiatre pour vous accompagner, pour remonter, pour surmonter cet événement.
Bah, moi je veux bien donner mon expérience parce que à mon précédent stage, j'étais en poste de nuit avec une infirmière que je connaissais à peine. Et on a eu un décès pendant la nuit. Et l'infirmière est assez occupée de moi parce qu'elle savait que c'était la première fois pour moi parce qu'il y avait des soins à apporter. Et c'est vrai que c'était pas évident la première fois de rentrer dans une chambre et de voir quelqu'un décédé dans un lit et s'en occuper. Et après, quand on a fini, elle m'a demandé si je voulais en discuter. Toute l'équipe a été autour de moi, mais je sais pas si dans les autres stages ça se passe comme ça.
Bah, moi, j'ai été aussi confrontée à ce genre de problème. Moi, c'était le patient que j'avais en responsabilité qui est décédé. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir cet accompagnement. Je pense qu'en gériatrie, les équipes ont l'habitude de ce genre de situation et donc cherchent à entourer les élèves. Mais par exemple, moi, j'étais en soins intensifs et pour eux, on s'est pas éternisé sur le fait que la personne était décédée. Pour eux, c'était plus une recherche de sauver la personne. Donc, ça dépend des services où on est, en fait. La vision de la mort est différente suivant la profession, enfin, le milieu où on exerce. Enfin, je pense que c'est ça.
Eh ben, merci pour ces expériences. Donc, on remercie bien chaleureusement les élèves de
l'IFSI de Roubaix.
Merci d'être venus, au nom de toutes.
Qui sont venus.
Merci.
Et qui ont répondu gentiment à nos questions. Merci. Là, on va passer au coup de gueule de Pierre. Pierre.
Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, je vais passer un petit coup de gueule. Alors, n'en déplaise à certains qui, de jour comme de nuit, seront déçus par mes mots. J'espère qu'il en plaira à d'autres de m'entendre exister au travers d'un certain regard porté sur la société. Ma condition, c'est la folie. Au fil des secondes, l'indicible tourment. Elle me questionne, me fait raisonner.
On pourrait dire que l'amertume rend plus fort, que de cette difficulté, je pourrais en faire une volonté de tout ébranler, tant parfois les choses de ce monde me rendent perplexe. Mais à chaque étape, j'ai pourtant l'impression de ne pas avoir remporté la mise. Prenons un exemple tiré du quotidien. On dira que c'est la folle condition qui fait son larcin, mais je persiste. Combien de représentants politiques malades ou l'ayant été avons-nous ? Tous ? Non, aucun. À l'image de mes angoisses de rejet, les sphères de pouvoir et de l'entendement démocratique nous échappent, à nous, gens de déraison. La représentation de nos personnes à la tête d'une quelconque entité politique, économique, commerciale, et j'en passe, manifestement nous est hors de portée. Pourtant, vous nous dirigez, mesdames, messieurs, les gens de raison, dites normales. Pourquoi ne pourrions-nous pas en faire de même ? Serions-nous condamnés à la marginalité ? Vous, qui soit la réprimandez, soit accentuez vos élans compassionnels vers elle. N'y a-t-il pas de juste milieu ? On pratique l'égalité des chances. En raison des disparités sociales, en cela, des hautes écoles sont implantées dans les quartiers les plus défavorisés. Mais un jour, verra-t-on un relais scolaire à l'hôpital psychiatrique ? De la même façon, pourquoi ne pas proposer aux députés de venir entendre leurs concitoyens là où ils sont ? Certains y passent leur vie et ne seront par conséquent jamais à même de se rendre là où tribune démocratique a lieu. Notre parole pourrait dès lors peut-être circuler jusqu'à l'Assemblée. J'en ai terminé avec ça.
Merci. Merci Pierre.
Je vous en prie.
Et maintenant, nous allons passer à la météo de Gilbert. Gilbert, micro.
Chers spectateurs, chers spectatrices, voilà la météo. Météo, samedi, pluie, vent, 6 degrés le matin, 16 degrés l'après-midi. Dimanche, soleil, 2 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi.
Merci Gilbert. Eh bien, il est temps de dire au revoir à nos chers auditeurs et chères auditrices.
Il y a oublié quelque chose.
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
C'est des entonnoirs parce qu'ils donnent plus fou dans la tête et ça gratte des pots sur ma tête et je viens plus fou, c'est ça les entonnoirs.